Ouais, comme je vous dis, hein, c'est des tests, mais on s'ajuste et tout ça, mais... En fait, je vais parler en regardant en avant, parce que si je parle, moi, c'est pas pareil, n'est-ce pas? vous savez, on s'en va dans Romains 6. La parole de Dieu. Dieu s'est révélé à nous. Il s'est fait connaître. La Bible est une révélation progressive. Je vous garantis que si Dieu avait tout révélé sur lui et son plan, Adam et Ève, il n'y aurait pas d'humanité, il serait mort, le cœur l'aurait arrêté. Je veux dire, c'est tellement grave, tout ça. Dieu, progressivement, à travers les âges, a toujours révélé de plus sur sa personne et son œuvre. Et on a la pleine révélation en Jésus-Christ. Hébreu 1, hein? C'est ce que ça nous dit. Et donc, on est dans Romains 6, et on va considérer ensemble les vérités bénies qui y sont. On a lu le chapitre au complet pour l'introduction à notre temps de prière. Et maintenant, on va lire les versets 1 à 11. Pour commencer ce message, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur. C'est merveilleux de pouvoir avoir ce privilège de considérer ce que tu révèles sur non seulement qui tu es, mais ton œuvre merveilleuse, parfaite, ultime en ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes ton œuvre. Nous sommes partie intégrante de cette œuvre ici, tous les enfants de Dieu nés de nouveau, régénérés par l'Esprit du Dieu vivant. Ouvre-nous les yeux sur tout ce que ça implique. Et comme on l'a prié tantôt, Seigneur, qu'on ajoute foi à ce que ça veut dire pour chacun de nous, à ce que tu nous montres personnellement pour chacun de nous ici. Et mon frère a prié tantôt, et je m'ajoute à cette prière, si quelqu'un est ici et ne te connaît pas encore, en esprit, en vérité, réellement, n'est pas encore passé de la mort à la vie, on te prie que cette ou ces personnes, aujourd'hui, naissent de nouveau. Nées d'en haut par l'Esprit de Dieu. Seigneur, on s'en remet à toi, on sait que tu es tout-puissant, tu es vivant, tu es vrai. C'est notre confiance, c'est notre reconnaissance. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Christ, notre identité rachetée. Comme je le disais, on est au premier message sur Romains 6, 7 et 8 qu'on va regarder de façon, je dirais, séquentielle. Donc aujourd'hui, c'est Romains 6. La semaine prochaine, Dieu voulant, Romains 7. Et pour terminer le mois de novembre, ça va être Romains 8. Et... Romains 6, c'est la bonne nouvelle aux saints. On dit souvent, l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour les perdus. Ben, quand ça, on a lu tantôt, si donc, au verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et on a vu aussi qu'on est au verset 6, notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est l'acte d'émancipation. On n'est plus esclaves du péché parce qu'on est mort avec Christ et on est rendu à la vie en lui. Et je dirais que cette grande réalité a, et lorsqu'on s'y confie, lorsqu'on, c'est l'appréhension de notre foi, lorsqu'on se voit comme ça, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, ça a un effet direct sur notre conduite. C'est pour ça que ça dit au verset 12 et 13 que le péché ne règne donc. Donc, ça, avec ce que je viens vous dire, ce que Paul dit, c'est avec tout ce que je viens vous dire sur ce que Christ a fait, puis avec ce qu'il a fait avec nous, en nous, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Autrement dit, cette œuvre de Christ amène la réponse de la foi, amène la réponse de l'enfant de Dieu à ce qu'il est, ce que Dieu a fait de lui. On vit à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ. Et c'est toute ça l'idée d'être renouvelé l'esprit de notre intelligence et par la grâce de Dieu. Et c'est l'œuvre que Dieu a commencé en chacun de nous, ses enfants, et qui va rendre parfaite pour le jour de Christ. Maintenant, j'avais dit tantôt que dans Romains 6, on a toutes les vérités qu'on considère aujourd'hui, mais ce n'est pas à prendre hors contexte de tout ce qui vient avant, mais surtout les versets 20 et 21 du chapitre 5, où est-ce que ça pense? Ça dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » C'est-à-dire, la loi nous montre le péché. C'est pas que « Ah, la loi a causé le péché, la loi révèle le péché en nous. » Il est déjà là, il n'y a pas de problème, il veut dire qu'on a une nature pécheresse, mais la loi, c'est pour montrer comment qu'on est pécheur, puis comment que le péché est grave, puis comment il est là, pour pas qu'on se fasse désaccroire. Donc, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on comprend l'introduction ici, au chapitre 6, 7, 8, ce qu'on vient de lire dans les versets 20 et 21 du chapitre 5, on comprend que Romains 6 à 8, c'est un exposé par rapport à la compréhension biblique qu'on doit avoir de la grâce de Dieu. Romains 6 et 7, c'est des rectifications par rapport à des mauvaises compréhensions de la grâce qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que ça dit, ça amène une question, puis ça dit « loin de là ». Ah, ben là, vu que la grâce est là, ben je vais pécher, fait que ça va montrer comment Dieu est donc bon quand il pardonne. Loin de là. OK? Là, on a vu ça. Puis Romains 7, c'est aussi la même affaire. Ah, là, vu que Dieu a donné sa bonne loi, ben là, je vais tout marcher par la loi de Dieu pour essayer vraiment de régimenter ma vie avec tous les efforts que je vais y mettre. Là aussi, c'est rectifié dans Romains 7. Et tout ça nous amène à la compréhension biblique, le rôle et le ministère du Saint-Esprit dans Romains 8. C'est juste vraiment des éléments d'introduction. Mais savez-vous que l'être humain étant ce qu'il est, et l'expérience chrétienne étant ce qu'elle est, je viens de parler de la bonne nouvelle de la déclaration d'émancipation de Romains 6. Vous savez qu'il y a une mauvaise nouvelle? Tu sais, on dit ça à des perdus. Ah, il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est perdu, puis on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais la mauvaise nouvelle pour le chrétien, même face à cette si merveilleuse nouvelle de l'acte d'émancipation de Romains 6, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous freine, voire nous empêche d'expérimenter la vérité bénie de Romains 8. Et c'est le passage nécessaire, voire obligatoire, par Romains 7. Pourquoi on ne passe pas de Romains 5, 21, la grâce règne, à Romains 8 direct, « Yé, je vis par l'Esprit, et la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Pourquoi on ne passe pas de un à l'autre directement? À cause qu'on est dur de comprendre, à cause de la nature fondamentale qu'on a, Dieu nous apprend dans notre propre peau, avec l'expérience de Romains 7, de toute la bonne volonté. Romains 7, on va le voir la semaine prochaine, mais c'est vraiment toute l'idée de le moi qui veut se façonner une belle vie chrétienne qui plaît à Dieu. Puis ça donne l'échec. Ça donne misérable que je suis. Ça ne marche pas. C'est pas l'intention de Dieu. C'est pas, comme j'ai déjà dit, la vie chrétienne, c'est pas une version améliorée de la chair. C'est crucifié avec Christ, c'est lui qui vit en nous. On va parler de ça plus en profondeur la semaine prochaine. Mais Dieu veut nous amener avec cette expérience, Romains 7, la mauvaise nouvelle, si vous voulez, de l'Évangile au sein. Il veut nous montrer ce que Jésus a dit dans Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La chair toute belle, la chair bien décorée, la chair qui a des bonnes intentions, c'est de la chair pareille. Ça ne sert à rien. Et je dis pourquoi ça nous fait peur. Parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir de la misère. Pensez à notre bien-aimé frère Pierre. Je sais qu'ici, il y en a qu'un. On a des chouchous dans l'église. Hein? Je sais qu'il y en a que leur chouchou, là, c'est Pierre. Hein, Eric? Pour ne pas te nommer. Mais bien, n'est-ce pas évident son expérience de Romains 7? Il était-tu motivé? Il voulait, il aimait son Seigneur. Il était prêt à mourir avec lui. Mais il a eu son misérable que je suis. Puis, il est arrivé là où Dieu voulait l'amener. Puis là, il a rentré dans l'expérience de Romains 8. Après la résurrection de Christ, quand Christ l'a restauré, c'est la beauté de la grâce de Dieu. C'est de ça qu'on parle. Ceux qui ne pensent pas qu'ils sont des pierres ou qu'ils sont mieux de pierres. Moi, je pense que Pierre nous est donné pour, souvent comme un miroir. C'est qu'il est tellement coupé carré, puis c'est tellement évident que quelqu'un peut dire, mais moi, je ne suis pas aussi pire que ça. Oui, mais tu sais, je veux dire, on peut vraiment s'identifier à Pierre, parce qu'il y a vraiment nos tendances, tu sais, pas avec toute la parure, là, puis tout le fignolage autour. Maintenant, je veux dire de quelque chose de bien important en partant ici le message au tout début. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Pour certains ici, la question de ce qu'on va considérer de notre mort avec Christ et de notre résurrection avec lui, notre union à Christ dans sa mort et sa résurrection, ça peut être une question peut-être d'incompréhension, de ne pas avoir été proprement enseigné par rapport à ces vérités libératrices, ces vérités, ces grandes vérités du Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on l'enseigne, c'est pour ça, OK? Mais pour d'autres, ou peut-être les deux, là, OK, il y a peut-être l'ignorance qu'on peut plaider, je ne connais pas ces vérités, je n'ai pas été enseigné proprement de ça dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi un autre problème qu'il ne faut pas qu'on néglige, c'est la résistance qu'on a de façon inhérente à la volonté de Dieu. La résistance à la volonté de Dieu qui veut nous humilier et notre insistance qu'on a à vouloir notre volonté, nos pensées, puis nos désirs. Parce que ce n'est pas juste une question intellectuelle de choses que je vais vous apprendre ce matin, des pages dans un livre. C'est l'expérience de la vie chrétienne, puis c'est là où le bas blesse, c'est que Dieu va exactement où est-ce qu'on a besoin. On a besoin d'être humilié. N'est-ce pas qu'on a vu ça dans le psaume 119? Avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, je prends garde à tes statuts. Dieu veut faire ça dans la vie de chacun ici. Et vous savez, je dirais que c'est d'abord et avant tout un problème relationnel, oui, doctrinal, comme je dis, on a besoin d'être enseigné de ces choses, et même plus, on a besoin d'être enseigné du Saint-Esprit, c'est lui qui vraiment nous fait faire le déclic, nous fait voir ces vérités si simples qui peuvent nous pendre au bout du nez pendant si longtemps, mais lui nous les fait vraiment voir. Mais il y a aussi un problème relationnel entre nous et Dieu qui peut bloquer notre vie dans Romains 7, peut-être pogner les deux pieds dans Romains 7. Je vous donne deux exemples, ça va vous aider à comprendre. On peut être une personne qui est remplie de bonnes intentions pour avoir la victoire sur la convoitise, le commérage, l'amertume, l'anxiété, OK? You name it, là, les problèmes de la vie qu'on a tous, puis chacun différemment pour sa part. Donc, on peut avoir plein de bonnes intentions, mais ne jamais arriver à cet état béni d'être habitué à la victoire, puis surpris par la défaite. C'est l'inverse. On est habitué à la défaite, puis on a une victoire, puis ça nous surprend. Pourquoi ça arrive? Oui, il y a une question d'être enseigné de ces choses, mais quand on gratte, souvent, c'est parce qu'on n'accepte pas l'humiliation que Dieu veut nous amener. La chair ne sert à rien. C'est des bonnes intentions. Mais l'origine n'est pas moi. C'est pas Christ qui vient à moi. Je parle de Dieu qui dirait « L'origine n'est pas moi, là, excusez. » Je n'ai pas été clair dans ce que je viens de dire, je reprends. Tu as des bonnes intentions, mais l'origine n'est pas divine, elle est humaine. Et Dieu veut nous amener à ça. Autrement dit, le problème, c'est pas « T'essayes pas assez fort. » C'est que tu essayes trop. Puis c'est pour ça que ça ne marche pas, justement. Puis Dieu veut nous amener au point de la grâce de Dieu où est-ce que, justement, on se rend compte c'est pas nos efforts, mais c'est laisser Dieu faire le travail. Un deuxième exemple, tu sais, on a le mot ministère, servir. On veut s'aider les uns les autres, bénir les uns les autres. Et on peut approcher cette notion de ministère, de se servir les uns les autres, avec encore là toutes les bonnes intentions de la chair. Notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et le problème, c'est pas qu'on n'aime pas les autres, qu'on veut pas les aider, c'est qu'on, c'est nous qui les aident, on laisse pas Dieu à travers nous les aider, les bénir. Pourquoi? Parce que nous sommes les initiateurs de cette aide. Ben, ça fait du bon sens. Il a besoin d'aide, faut que je l'aide. Comme je le disais l'autre jour, t'as-tu demandé à Dieu s'il veut se servir de toi? C'est quoi qu'il veut que tu dises? C'est quoi qu'il veut que tu fais? Je veux dire, faut que Dieu soit l'initiateur. Certainement, Dieu veut qu'on ait un ministère mutuel envers les uns les autres, mais est-ce que Dieu en est l'initiateur? Parce que Dieu initie, il le bénit. Mais ce que nous, on initie, ça détruit. Hey, c'est un poème. Et parce que sinon, savez-vous, on peut avoir un ministère des choses qu'on fait qui est un amoncellement d'œuvres mortes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fruit de la vie de Christ. Pourquoi? Parce que l'origine est la chair et la chair ne peut pas plaire à Dieu. Comme je disais, qu'elle soit pleine de bonnes intentions et qu'elle paraisse bien ou non, la chair, c'est la chair, elle ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et souvent, comment on fait pour savoir si c'est le cas? Parce que je dis, c'est comme je dis, c'est parce qu'on aime les autres, c'est pas un problème d'intention, c'est pas un problème d'amour du Seigneur, mais souvent le fruit qui en sort, la confusion, le découragement, l'éloignement. Si mon ministère pour encourager les autres les laisse toutes débiner puis décourager, probablement que c'est moi qui ai fait le ministère puis que je n'ai pas laissé Dieu le faire. Mais bon, à la lumière de ces exemples, on comprend que l'expérience Romains 7, même si elle est pleine de bonnes intentions, c'est quoi? Elle est néfaste, elle est destructrice, autant pour moi que pour les autres. C'est pour ça que, là, c'est une longue intro, mais j'ai juste deux points dans mon message, fait que faites-vous-en pas, là. Le rôti ne va pas calciner dans le four. C'est pour ça que c'est tellement important de commencer avec le fondement biblique de Romains 6. Je viens de vous parler de Romains 7, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer avec le fondement biblique de cette émancipation pour ne pas sombrer dans le piège de nos bonnes intentions puis d'essayer plus fort comme dans Romains 7, on va voir la semaine prochaine. Mais vraiment d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on comprenne que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mes amis, on considère ensemble la grande doctrine du Nouveau Testament, l'ultime aboutissement des vérités de la Bible, comment tout est complet, accompli en Jésus-Christ et dont nous sommes les bénéficiaires. Les choses de l'Ancien Testament en étaient des ombres et dans le Nouveau Testament sont accomplies. Et nous sommes les participants des plus grandes et des plus précieuses promesses en Jésus-Christ. C'est de ça que ça parle, quand ça parle de notre union avec Christ. Et je vais vous en parler dans un instant, mais la fameuse question, comment je fais pour avoir la victoire sur le péché qui m'enveloppe si facilement? Sur le péché qui détruit mes relations? C'est ça la réponse, c'est ce qu'on considère aujourd'hui puis dans les deux prochains messages. Donc on va regarder simplement ensemble deux vérités fondamentales par rapport à Christ, notre identité rachetée. La fondation, la première vérité, c'est la fondation de cette vérité. La fondation de Christ, notre vérité rachetée. Avant d'aller plus en détail, on va regarder des versets dans Romains 6, mais juste avant, je vais vous donner un peu une vue d'ensemble par rapport au plan rédempteur de Dieu, parce que je veux qu'on voit la vue d'ensemble pour nous aider à voir qu'une simplicité là-dedans. La dernière chose que je voudrais en considérant Romains 6, si vous en sortiez puis vous dites, c'est bien compliqué, je comprends pas. C'est pas parce que c'est compliqué. Si vous comprenez pas, priez. Parce qu'en même temps, des fois, c'est tellement simple, ça peut nous pendre au bout du nez, mais c'est spirituellement qu'on les discerne. Fait que je suis très limité, là. Moi, c'est pas moi qui est votre enseignant. Moi, je suis un sous-contractant. Je travaille pour celui qui est le vrai enseignant. Mais c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on demande à Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur. Sauf que ça nous aide à voir les choses de fondation. Donc, je vous donne un peu l'idée générale, le big picture du plan rédempteur de Dieu, comment nos vérités de ce matin se placent là-dedans. Le chapitre 6 de Romains et les suivants. Ici, là, aussi, le fondement là, des vérités qu'on voit, c'est comprendre que, dans le fond, comment Jésus-Christ est venu racheter et restaurer ce qu'on a perdu en Adam. Parce que, regardez, là, on parle de contexte, chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et là, quand on dit mort, là, c'est pas juste dans le tombeau, là. C'est la mort à tous les niveaux, là. La mort relationnelle, ça marche pas entre nous autres, la mort à nous autres, on se sent vide tant qu'on n'a pas Christ, puis, tu sais, la mort, là, vraiment, quand on dit mort, là, mort dans son pire état, là. OK? Dans toutes ses facettes. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. OK? Maintenant, donc Jésus est venu racheter, restaurer ce qu'on a perdu en Adam. Écoutez bien, là. Ce qu'on a perdu, là, pour le médecin, on a perdu la vie. On a perdu la vie, même la vraie, l'originale. La vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, la vie qui satisfait. C'est pour ça que l'expression en Jésus-Christ, en lui, est tellement importante avec ce qu'on considère ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle contraste avec notre condition naturelle en Adam. Notre ancienne vie, c'était en Adam. Le salut, c'est d'être placé en Jésus-Christ. À la lumière de ça, regardons encore le verset 6. Sachant que notre vieil homme, ça c'est ce que nous étions en Adam. Ça, c'est moi avant que je sois sauvé. Notre vieil homme a été crucifié. Acte accompli, mort totale, une fois pour toutes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc c'est pas juste que Jésus est mort pour nous, on est mort avec lui, afin, OK, dans le but que le corps du péché, c'est ma chair. C'est la partie de moi qui est encore insoumise à Dieu. C'est ma nature qui cohabite avec celle de Dieu lorsque je suis un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? OK, donc, ce que j'étais en Adam, c'est fini. Dans le but que la nature pécheresse, OK, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est un mot intéressant, katargeo, des fois ça dit, certaines versions disent annihiler, mais c'est pas l'idée d'annihiler. C'est comme si un combat de boxe, là les deux boxeurs, un pinot, ils donnent tellement un gros punch, un uppercut, quelque chose de même, ben l'autre, il est sur le dos, puis il est hors de portée de nuire. C'est pas qu'il arrête d'exister, puis il est plus là. Mais l'œuvre de Christ dans la vie du croyant a brisé la domination du péché. Donc, il n'y a plus la domination qu'il y avait. Il est encore là. Mais Christ en a brisé la puissance. Ça, c'est fondamental. C'est ça la clé de la vie chrétienne, là. Réduire la puissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce qu'avant Christ, Adam, tu étais un esclave du péché. Quelqu'un dit, ben moi, je ne prenais pas des drogues. Pas... Le péché, sous tous ses formes. Quelqu'un peut être très religieux et être un grand pécheur. Ceux qui ont crucifié Christ étaient top-notch aux yeux du monde. Tout le monde entier sous la puissance du malin, puis tant qu'on n'est pas délivré, on est esclave du péché. OK? Maintenant, ce qu'on vient de dire là, c'est le cœur du chapitre 6 de Romains, le verset 6. Parce que ça nous explique comment puis pourquoi cette vieille nature, ce que nous étions Adam, c'est passé. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, votre ancienne vie, votre passé est passé. Il est mort. C'est un chapitre, tome 1 de votre vie, c'est fermé. Maintenant, c'est la version 2.0 que vous avez. Parce que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, c'est votre nouvelle identité. C'est précieux, ça, là. C'est pas juste de la théorie, puis j'essaie avec le message, j'espère que le Saint-Esprit va convaincre ça pour voir toute la beauté, la délivrance qu'il y a de là-dedans. Mais je continue d'avancer là-dedans. Donc, ce verset-là nous montre comment et pourquoi cette vieille nature est passée. Parce que Dieu lui-même l'a mis à mort, une fois pour toutes, chez chacun de ses enfants. Chacun. Pourquoi? Parce qu'on a été co-crucifié avec Christ. On est mort avec lui. Et notre identité en Adam, là, c'est effacé, c'est passé. Et maintenant, on porte cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Pour le dire autrement, et là, je vais vous expliquer. On va faire un peu de théologie ce matin. Ce que les théologiens appellent notre représentation fédérale. Là, je ne parle pas du gouvernement, là. C'est-à-dire qu'avant notre tête, notre représentant universel était Adam. Nous étions en lui, identifiés à son péché, à sa nature. Et maintenant, en Jésus-Christ, parce que Christ s'est occupé de ce qu'on était avant, maintenant, on a changé de tête, de représentant, OK? C'est Jésus-Christ. Fait qu'on était d'une famille, d'une gang, par nature, puis on a passé... C'est grandiose, là. Je veux dire, c'est une opération divine que Dieu a faite. Quand on est un enfant de Dieu, c'est ça qu'on est, là. On est passé de là à là. Passé de la mort à la vie, c'est ça que ça implique. Passé d'Adam à Christ. Notre chef, notre tête, notre représentant, ce n'est plus Adam, c'est Jésus lui-même. Et Dieu nous a recréés en Jésus-Christ, nous a placés en lui, nous a sortis de la malédiction de la chute. Il nous a placés dans la bénédiction infinie et éternelle de la rédemption en son Fils. En lui, nous avons la rédemption rachetée par son sang. Ça, c'est notre nouvelle identité rachetée. À matin, je vous parle de rédemption, je vous parle de tout ce que ça implique. Maintenant, si on continue un peu plus loin, ce que ça veut dire, ce qu'on vient de considérer là, et je vais donner un peu plus de détails dans le prochain point, mais comprenez bien que, comme je le disais tantôt, là, peut-être que pour vous, là, vous avez de la misère à tout mettre ça ensemble. J'espère que je ne le mets pas trop compliqué et intangible. Peut-être que c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas familier. Priez, lisez, relisez ces chapitres. Lisez-le pendant toute une semaine, pendant tout un mois. Le Saint-Esprit va travailler avec ça. Puis je vous dis, priez, Dieu, ouvre-moi les yeux que je vois les merveilles qui sont en Christ. Parce qu'il y a une simplicité là-dedans, ça dit, hein? Prenez garde que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ. Avant, c'est simple. On était mort, on est rendu à la vie. On était en Adam, on est rendu en Jésus-Christ. Mais j'aimerais amener ça au verset 11. Parce que tout ce que je viens de vous dire, de ce que Dieu a fait, puis verset 6 et tout ça, on doit l'accepter par la foi. C'est ça l'idée de verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Ça, c'est le regard de la foi. Je me considère par la foi, à la lumière de ce que Dieu a fait. Regardez-vous comme mort au péché. C'est pas juste une théorie qu'on apprend, c'est une réalité qu'on acquiesce par la foi. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus la personne que j'étais, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est le fondement de notre liberté. C'est le fondement de la vraie liberté. De celle qu'on voit au verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur nous? Parce qu'on l'a vu, la puissance du péché a été brisée. La domination, le règne du péché sur notre vie a été brisé. Maintenant, on est sous le règne de la grâce, le règne bienveillant du Dieu vivant qui, lui, vit en nous. C'est ça la clé de la victoire. Encore pour utiliser une autre analogie, Romains 6, c'est la vérité du retour de l'arbre de vie. On avait été chassé du jardin, plus d'accès à l'arbre de vie. La croix, c'est le deuxième arbre de vie d'où jaillit la vie à flot. J'aime en anglais, souvent ils disent pour la croix. J'ai pas entendu en français des chants qui parlent de la croix comme de l'arbre. Parce que même, il y a une image, dans l'Exode, je crois, il y avait un bois dans l'eau, puis c'est une image de la croix, puis nous autres, ça dit un bois, puis en anglais, ça dit un arbre. C'était probablement pas rien qu'un petit bout de bois, là, c'était un arbre qui flottait, puis bon, toute une image de la croix, je rentrerai pas dans ces détails-là, mais souvent dans des cantiques en anglais, on entend des, comme « he bore my sin upon the tree », puis tu sais, souvent on parle de la croix comme un arbre. Ben oui, parce que c'est le deuxième arbre. Jésus est venu, a été sur cet arbre de vie, cet arbre qui nous donne la vie. Lui, juste et mort pour nous injustes, lui a subi la colère de Dieu afin qu'on soit libérés et qu'on ait la vie. Ça m'amène au deuxième point, justement, sur la liberté. Le deuxième fondement, non seulement le fondement, la fondation de Christ, notre identité rachetée, mais aussi la libération de Christ, notre identité rachetée. On ne va pas tout lire les versets 14 à 23, on va en lire un peu à mesure qu'on avance. On vient de lire le verset 14, je veux le relire. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » N'est-ce pas ce que j'ai dit là? On considère aujourd'hui la clé sur la victoire sur le péché dans notre vie. Là. Ça le dit ici. « Car le péché n'aura point de pouvoir. » Y a-t-il quelqu'un ici qui a attention et dit « Wow! » Ça là, moi je veux vraiment que ça soit vrai dans ma vie là. Moi le péché dans ma vie, son pouvoir là, j'en veux le moins possible, puis je veux de plus possible la puissance de Christ dans ma vie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut dans nos cœurs. Mais là, ça nous le dit, là, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça nous parle ici de la liberté, puis il amène plus loin tout le concept de liberté dans les versets qui suivent. Mais comme je disais, tout le chapitre 6, bon, 7 et 8, c'est en réponse à une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire que la grâce règne dans nos vies. La grâce règne, ça ne veut pas dire de laisser le péché avoir libre cours pour montrer comment que Dieu est donc bon parce qu'il pardonne. C'est pas non plus retourner sous la loi. Autrement dit, Romains 6 et 7 rectifient notre pensée erronée sur la mauvaise compréhension de comment régler le problème du péché dans ma vie. C'est pas en l'ignorant, c'est pas en l'excusant puis en disant « Oh, c'est pas grave, ça c'est romantique. » C'est pas non plus en essayant de le régimenter puis essayer fort de le combattre par moi-même. C'est aucune de ces réponses. La réponse, c'est seulement par Jésus en nous et nous en lui. C'est la seule façon qu'on peut régler le péché. Regardez, Romains, on prend un peu d'avance, mais Romains 8, 2 et 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, ça va avec toute l'idée de ce que je parlais de l'acte d'émancipation. Mais regardez aussi au verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair, la fameuse chair, là, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On sent sous le nouveau régime de l'esprit. Puis tout ça, c'est dans le contexte du cri de « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Grâce soit rendue à Dieu, hein, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a donné son esprit. Son esprit qui habite en nous, c'est ça la clé pour la victoire sur le péché. Donc, ce qui était humainement impossible a demandé l'intervention de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce, lorsque Dieu fait le travail. Il a fait pour nous ce qui est impossible. Il nous a libérés de la puissance du péché et a fait habiter en nous son esprit qui fait qu'on peut non seulement être libéré de la puissance du péché, mais marcher dans la justice de Dieu. Et dans les versets 16, donc on va les lire et regardez comment il y a toute la notion de liberté là-dedans. Ne savez-vous pas, là je parlais de 6-16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, mais grâce soit rendue en Dieu. De ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes maintenant devenu esclave de la justice. Puis il continue dans le même sens, tout en mettant en contraste l'esclavage versus la liberté. Et ça, c'est ce que j'appelle la vraie liberté chrétienne. Vous savez, des fois, c'est un sujet qui est souvent magané, ça, dans les milieux chrétiens, la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, c'est pas la liberté de faire ce que je veux, puis être égoïste, puis que ou de dire ce que je veux, faire du mal aux autres, de laisser les passions de ma chair. C'est pas ça, la liberté chrétienne, ça, c'est de l'esclavage. La vraie liberté chrétienne, c'est la capacité que Dieu nous donne d'aimer, de pardonner, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, d'être libre de souffrir même lorsqu'on ne sait pas pourquoi, puis savoir cette liberté sur la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Que pensez-vous de cette liberté? La liberté d'être vrai. Vous savez, s'il y a un endroit où est-ce qu'on devrait ne pas avoir peur d'être vrai, c'est bien l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est un endroit, malheureusement, qui a été le plus critiqué par avoir du monde hypocrite et faux, malheureusement, c'est l'Église. On a passé complètement à côté de ce que Dieu veut faire avec une Église. On en a fait un lieu de cachette, la peur. La peur de ce que les autres vont dire. La peur de considérer les autres à la lumière de la juste loi de Dieu, mais de ne pas aller plus loin puis conduire à Christ. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient, qui sont justifiés par la foi. Et pourquoi c'est de même? Pour reprendre l'expression que j'ai dit hier, parce qu'on n'est pas sécure, on n'est pas en sécurité dans l'amour de Dieu. Si je sais que Dieu m'aime, puis que rien peut arriver qui ne permette pas, autant dans ma vie que dans mes relations, puis tout ça, pourquoi j'aurais peur d'être vrai? Pourquoi j'aurais peur de la vérité? Puis si l'autre a un problème avec ça, ben Dieu va s'en occuper. S'il veut me blesser, j'ai la liberté de le pardonner, j'ai la liberté de l'aimer pareil. C'est fort, là. C'est radical la vie chrétienne, vraie, là. La vie de Christ en nous, c'est pas normal. Là. Pour ceux qui écoutent, là, la vie chrétienne n'est pas normale. La vie chrétienne n'est pas selon ce qu'on est habitué de vivre. C'est surnaturel. Et mes amis, lorsqu'on exerce cette liberté d'être vrai, c'est là que le Saint-Esprit embarque dans nos relations fraternelles. Pensez-y, les occasions qu'on a eues de s'aimer les uns les autres, se supporter, c'est quand on est vrai. Quand on n'est pas vrai, puis on se cache, on s'enferme dans une prison. L'honnêteté entre les chrétiens, c'est... L'honnêteté entre les chrétiens, c'est directement proportionnel à l'efficacité du ministère du Saint-Esprit entre nous autres. Là, je vais le répéter. Ben, j'ai été un peu distrait, mais je peux sûr avoir votre attention. L'honnêteté, pourquoi c'est important? On veut que le Saint-Esprit travaille. On l'a vécu, n'est-ce pas, de différentes façons. Le Saint-Esprit travaille quand on est vrai. Quand on est honnête. Pas quand on est méchant et qu'on chante des bêtises aux autres. C'est pas ça, dire d'être vrai, mais c'est d'avoir la liberté d'être faible, vulnérable, d'être dérangé. Hein, c'est avoir la liberté de répondre à l'offense de façon christique. C'est un gros mot que je viens de dire là, l'offense. On s'offense les uns les autres. On offense d'autres, on est offensé. Comment on répond à ça? Comment Christ a répondu à l'offense? Christ, en nous, l'espérance de la gloire, a une façon de répondre à l'offense. Et il y a un trésor, il y a un rendez-vous divin. Là. Nous, on dit, ah, j'aime pas ça, c'est pas beau l'offense, c'est pas agréable. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a un consolateur. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il nous rejoint exactement à cet endroit. C'est ça la beauté du ministère du Saint-Esprit au milieu de nous autres. Ça chasse la laideur de la peur. Et là-dessus, je vous lis, j'ai une application avec 2 Corinthiens, pardon, au chapitre 3. Ça dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, au verset 14, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ce voile, c'est celui de l'hypocrisie puis de la peur. La loi, ça nous encabane dans une peur. Si je dis la vérité, les autres vont me condamner parce que c'est un ministère de condamnation, la loi. Fait que si je marche avec ça, c'est ça que je vais faire, je vais condamner les autres. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça nous montre que oui, il y a de la condamnation, oui, le péché c'est laid, mais c'est pas la fin de l'histoire. J'aime à le répéter, Christ est la fin de l'histoire. Et toujours dans le même passage, au verset 16, ça dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La vraie liberté, quand on est... C'est ça, la libération de Christ qui nous a rachetés, c'est de vivre cette vraie liberté. Et je dirais un bon test pour savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans cette liberté, comment vous expérimentez, Romains 6, cet acte d'émancipation, déclaration d'émancipation. Évaluez le degré de libération que vous avez dans votre vie de la peur, de la honte et de l'insécurité. Devant Dieu, là. Pour savoir, je le vis-tu, Romains 11? C'est-tu vrai, Romains 11, dans ma vie? C'est un bon test. Comment vous êtes libéré dans votre vie de vos peurs, de votre honte et de votre insécurité? Ou pour le prendre de l'autre côté du possible positif, à quel point vous expérimentez dans votre vie l'assurance, l'acceptation et le fait de savoir que vous êtes précieux, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Même au point que quand ça va mal, vous savez que c'est parce que Dieu vous aime que c'est les choses qu'il vous envoie. Ça, ce n'est une dure à avaler parce que automatiquement, quand ça va mal, on dit « j'ai fait quelque chose de pas bien ». N'est-ce pas? C'est pas vrai. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu m'aime. Ça veut pas dire que quand on fait pas quelque chose de bien, Dieu... J'enlève pas la notion de châtiment, puis Dieu qui nous reprend, puis tout ça. Mais tout ça, c'est dans son amour, anyway. Tu sais, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous laisse pas nous égarer. Donc, voici comment je veux résumer ce survol. Hein. Comme j'ai dit, là, tu sais, j'ai pas été en détail, mais ce survol de Romains 6, ce qui nous empêche de voir, de bénéficier, de se reposer dans la liberté de Romains 6, c'est notre propre orgueil, notre propre incrédulité. Et voici comment ça se passe. La majorité des chrétiens ne se voient pas ou ne croient pas qu'ils sont morts, premièrement. Fait qu'ils essayent bien fort, ils sont bien vivants, plein de bonnes intentions. Mais quelqu'un de mort, il essaye même pas, il est mort. Quelqu'un l'offense, essaye d'offenser un mort. Vous direz, on va faire un exercice de voir cette semaine, aller au cimetière et aller offenser des morts. Ça marche pas. Parce qu'on ne croit pas qu'on est mort. C'est de l'incrédulité par rapport à ce que ça dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le péché soit réduit à l'impuissance, sa puissance brisée, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais une autre chose, Dieu ne nous demande pas de mieux vivre, parce qu'on est mort. Pourquoi Dieu nous demanderait de mieux vivre si on est mort? Et il dit non, essaie pas de mieux vivre, laisse-moi vivre. C'est ça la vie chrétienne, c'est pas aidons une meilleure vie. Non, Dieu s'est débarrassé de notre vie parce qu'il n'y avait rien de bon avec. C'est comme le vase du potier, il a tout mis ça de côté puis il repart en neuf. C'est ça la vie chrétienne. Fait que Dieu ne nous demande pas de mieux vivre, il nous demande d'arrêter d'essayer de mieux vivre. Combien on entend dans des messages, dans les milieux chrétiens, il faut mieux vivre. Ça paraît bien, mais pensez-y, c'est de l'humanisme. C'est pas le surnaturel, c'est pas Romains 6. Il y a une tromperie là-dedans incroyable. Aussi, Romains 6, vous dites, ouais, ok, pas sûr de tout saisir, ben Galates 2:20. J'ai été crucifié, c'est réglé. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, là, vous me voyez aujourd'hui, là, c'est plus moi qui vis. Là. C'est Christ qui vit en moi. Comment ça se passe, ça? Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Le juste vivra par la foi. La foi, souvent on regarde la foi comme, j'ai pas assez de foi, j'ai besoin de plus de foi. Non, t'as besoin de la mettre à la bonne place. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Même des fois, c'est drôle parce que la façon que c'est phrasé, c'est sa foi, c'est sa vie, tout vient de lui. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour Dieu. Alors, j'aimerais vous dire, d'abord, pour le laisser vivre, il faut d'abord recevoir sa vie. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvé, écoutez bien ce que ça dit ici. Dans Actes 26-18, Dieu qui parlait à Paul, puis disait, je vais t'envoyer pour aller prêcher la bonne nouvelle, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Puis tantôt, ça a été cité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous êtes ici, aujourd'hui, vous n'êtes pas sauvés, vous devez naître de nouveau. Jésus est là, il te voit, il te regarde, puis il t'appelle à lui. Il ne demande pas de répondre à des vérités simplement, puis... Il vous demande de répondre à l'appel de celui qui vous appelle à lui pour être réconcilié avec Dieu. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et mes chers frères et sœurs, en matin, arrêtez d'essayer de votre mieux. Arrêtez d'essayer de vivre la vie chrétienne. Laissez Christ vivre en vous, c'est tellement mieux. Puis écoutez, là-dessus, on a parlé de liberté. Je vous laisse avec ces versets-là. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a parlé de la liberté, on a parlé de la déclaration d'émancipation. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Puis écoutez aussi le verset 13 du même chapitre de Galates. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement... Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, peu importe à quoi qu'elle ressemble. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et Dieu nous rend la liberté de se servir les uns les autres, puis d'aimer servir même ceux qu'on n'aime pas naturellement et qu'on aurait de la misère. Puis Dieu est glorifié là-dedans, parce que c'est évident que c'est son œuvre. Merci Seigneur, tu es merveilleux. On te loue de ce qu'on peut te connaître par Jésus-Christ ton Fils. Et si quelqu'un ici ne te connaît pas, et toi qui sondes les cœurs, on prie que maintenant Seigneur, tu continues Seigneur à presser sur ce cœur pour l'appeler à Christ, qu'il voit la beauté de Christ, la suffisance, la perfection de Christ et comment c'est la seule et unique solution au péché. Et Seigneur, pour nous, tes enfants, merci que tu nous libères de nous-mêmes. Tu nous libères d'une vie qui se résume par ce cri misérable que je suis. Et grâce soit rendue à toi, notre Dieu, notre Père, pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a libérés une fois pour toutes, qu'on vive dans cette liberté par la foi. Cette liberté de Christ qui vit en nous. Seigneur, merci. Dirige, Seigneur, que ton peuple qui s'est rassemblé réponde à ta voix, ta douce voix que tu fais entendre. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.